Alex Larouche et Kat Bachan, un duo intergénérationnel pour parler de tout, vraiment tout.
On parle de tout, mais on parle beaucoup de ce qui se passe à l'international depuis, depuis quelques semaines, c'est pas vrai, depuis des mois et des mois, même des... Depuis un an, depuis que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, on parle énormément de l'international et que ça a commencé avec ces histoires de tarifs beaucoup. Là, on est pas mal en Iran depuis quelques semaines et je le disais avant la pause, quand on veut parler de ce qui se passe à l'international, notre meilleur ami, c'est Georges Mercier qui est avec nous. Salut Georges!
Salut Maxime, salut Catherine.
Salut.
Je vais commencer avec une question bien simple. Là. Je pense qu'on est plusieurs à avoir été mêlés un petit peu au courant de la fin de semaine quand on a vu les grands titres commencer à arriver de « Donald Trump va bloquer le détroit d'Hormuz ». Puis là, tu te disais, t'as peu, là, Donald Trump travaillait pas pour le débloquer, mais là, pour se venger qu'il reste bloqué, il dit que c'est lui qui va le bloquer. Là, finalement, tu te rends compte qu'après, il a comme précisé les choses pour... C'est pas tout à fait ça. On parle vraiment de bloquer les ports iraniens, mais reste qu'à base, dans sa publication Truth Social, là, ce qui en ressortait, c'est « Hey, c'est moi qui va le bloquer, le détroit d'Hormuz. Georges, qu'est-ce qui se passe? »
C'est qui m'aime?
Ben, c'est ça, c'est qui m'aime? La question, c'est le détroit, il est bloqué pour qui? Juste remettre les choses en perspective, le détroit d'Hormuz, c'est cette voie de transit entre l'Iran et Oman où passait, parce qu'on parle à l'imparfait maintenant, 20% de la production annuelle de pétrole mondiale. Au début de la guerre, les Iraniens ont dit « les Américains nous frappent, les Israéliens nous frappent, ils sont plus forts que nous militairement, donc on peut pas espérer les vaincre par les armes. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Ben, on peut menacer de fermer ce détroit-là pour essentiellement prendre le monde en otage. On va prendre l'énergie mondiale en otage. Puis puisque l'Américain moyen n'a pas une immense tolérance pour payer très cher au prix de la pompe, pour permettre à son président d'atteindre ses objectifs, mais le pari des Iraniens, c'est le même aujourd'hui, c'est on va tellement faire mal à leur portefeuille qu'ils n'auront pas le choix de nous donner ce qu'on veut ou tout au moins d'arrêter le conflit. Bon, le président américain voulait rouvrir le détroit. C'était rendu un de ses principaux objectifs de guerre. On a eu des négociations en fin de semaine qui n'ont pas abouti à un accord très concluant. Donc, qu'est-ce qu'il dit? OK, vous savez quoi? Vous, les Iraniens, vous voulez fermer le détroit pour tous les navires autres que ceux de vos alliés? Ben, je vais le fermer pour vos navires à vous. Parce qu'il y avait un gros paradoxe depuis le début du conflit, Max, c'est que oui, les navires, les pétroliers étrangers pouvaient pas passer, mais les navires iraniens pouvaient passer et les États-Unis avaient même levé les sanctions sur le pétrole iranien. Pourquoi? Parce qu'on voulait continuer à offrir assez de pétrole pour que les prix s'envolent pas. Lorsque le président dit, c'est on change de stratégie, on va empêcher les Iraniens d'exporter leur pétrole, donc faire un blocus sur leurs navires, ceux qui quittent les ports iraniens. Pourquoi? Pour essayer de l'étouffer, de lui empêcher, de lui enlever ses sources de revenus pour le forcer à retourner à la table de négociation. C'est ça qu'on cherche à faire.
Mais là, puis l'impact a été immédiat. Le prix du baril de pétrole, ça repart en fou, là. Ce que tu nous dis, c'est que là, du pétrole, il n'y en a plus pantoute qui va pouvoir passer. Les prix avaient déjà monté. Là, si on empêche le pétrole iranien de passer en plus, il me semble que Donald Trump se tire un peu dans le pied.
Oui, de l'autre côté, le pétrole iranien, c'est pas la principale source d'approvisionnement pour à peu près aucun pays dans le monde. La Chine importe un certain pourcentage, mais c'est moins que 50% de ce pétrole-là. Donc, c'est pas comme si l'approvisionnement iranien pouvait vraiment pallier aux coupures d'approvisionnement des autres pays du Golfe. Et donc, peut-être que l'impact sur le prix du pétrole va pas être immense. D'ailleurs, ça va pas exploser. On est retourné au-dessus de 100 US le baril, mais néanmoins, c'est pas une explosion. On n'est pas rendu à 140, 150. Donc, on verra si le pari des Américains fonctionne. Ce que ça nous indique, c'est que Donald Trump est prêt, à court terme au moins, à imposer aux Américains, puis je reviens là-dessus tantôt, aussi à nous imposer à nous, hein, parce qu'on est des victimes de ce conflit-là, à nous imposer des coûts d'énergie très hauts pour peut-être réussir à avoir un accord qui le satisferait.
Concernant les négociations entre les États-Unis et l'Iran, Trump dit que ça s'est bien passé, la plupart des points ont été approuvés, mais le point crucial, le nucléaire, a fait l'objet d'un désaccord. Quand on les regardait, les points, là, quand ils sont sortis dans les médias, les points qui étaient proposés par l'Iran, me semble que ça sautait aux yeux qu'il y en avait une couple là-dedans, notamment sur le nucléaire, qui faisait aucun sens. Puis on se demandait presque pourquoi Donald Trump avait accepté de négocier autour de ça, alors que c'était complètement invraisemblable d'en arriver à une entente, notamment, je reviens là-dessus, sur le nucléaire. Puis il ressort après en nous disant « Hey, on s'entend pas sur le nucléaire ». Je sais pas, me semble que c'était clair ça à l'arrivée.
Ouais, mais tu sais, au sujet de ces points-là, je pense que la Maison-Blanche voulait surtout un cessez-le-feu. Puis on a des sources de l'interne qui nous disent que ça faisait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'on voulait un cessez-le-feu. Donc, on l'a demandé à travers le Pakistan. L'Iran a sorti cette liste de 10 points-là qui n'avaient pas de bon sens hein, pour les Américains. Les Américains ont dû dire, on va dire oui pour obtenir le cessez-le-feu. Et là, la question, c'est est-ce qu'il se maintient, ce cessez-le-feu-là? Parce que le blocus qu'on attend, le blocus qu'on propose, c'est pas une reprise d'hostilité. On ne recommence pas immédiatement à frapper en Iran. Au contraire, on a quand même un conflit gelé, mais avec une nouvelle dimension navale. Puis au sujet des négociations, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait un gouffre entre les parties. Alors, les Américains veulent trois choses. Ils veulent que les Iraniens cessent de produire des missiles balistiques. Ils veulent qu'ils s'engagent de manière crédible à ne pas chercher une bombe nucléaire. Et ils veulent qu'ils cessent de soutenir les différentes milices au Moyen-Orient qui déstabilisent la région. Pour ces trois éléments-là, les Iraniens disent les missiles, on n'en parle pas. Le nucléaire, c'est un droit souverain. On a le droit d'enrichir l'uranium en partie. Et les milices, ce sont des résistants héroïques islamistes. Donc, ils s'entendent pas du tout là-dessus. De l'autre côté, le régime iranien, on lui demande pas une chose immense. Hein. On demande au régime du côté américain, engagez-vous à ne pas avoir de bombe atomique. Ce qui n'est pas une demande déraisonnable. Et ce qui se passe en Iran, c'est qu'on a un régime qui est assez farouchement idéologique, très campé sur ses positions, qui veut absolument garder ce droit-là, au moins formellement. Donc, le régime ne bouge pas. On tente une autre chose pour le faire plier. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que d'autres nations, notamment occidentales ou des démocraties comme la Corée du Sud ou le Japon, est-ce que d'autres nations vont participer à l'effort américain pour qu'on comprenne finalement que c'est pas seulement un problème pour les États-Unis, c'est aussi un problème chez nous, parce que je sais pas si tu as remarqué, Max, moi j'ai fait le plein récemment, ça nous impacte beaucoup, ce conflit.
Puis à date, faut dire que il y a pas ben de pays qui ont dit aux États-Unis, « Hey, savez-vous quoi, on va embarquer avec vous autres, puis on y va. » Même que là, concernant le blocus de ce que j'ai vu passer, c'est surtout des pays qui disent « Je suis pas sûr. »
Non, mais il y a beaucoup de peur, même de manque de courage du côté des autres pays, parce que nous n'allons pas oublier une chose. Le détroit de Hormuz, c'est pas des eaux internationales, mais c'est un passage naval international. Et il y a des conventions en droit international qui stipulent que ces passages-là doivent être ouverts à toutes les embarcations sans que vous ayez à payer de péage, sans que vous ayez de conditions qui vous soient imposées. Donc, le régime iranien, il est hors la loi en ce moment, du point de vue du droit international. Et les pays occidentaux qui, dès qu'ils en ont l'occasion, parlent de droit international, parlent de respecter les normes, qui ne s'engagent pas pour réouvrir le détroit, c'est curieux. Bon, on comprend pourquoi, parce que c'est pas une guerre qui est populaire. Il n'y a pas de gains électoraux à aller faire en s'attaquant au régime iranien. Mais néanmoins, il y a un moment où, même chez nous, je pense au Canada, je pense à la France, je pense à l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, il y a un moment où on devrait faire preuve de plus de responsabilité et comprendre qu'on ne peut peut-être pas laisser les Américains seuls et qu'on aura à s'impliquer d'une manière ou d'une autre pour retrouver la situation pré-conflit.
Parlant de pays qui veulent peut-être s'impliquer, la Russie s'est dit prête à accueillir l'uranium enrichi iranien dans le cadre d'un deal, tout le monde ensemble. Dans le concret, là, qu'est-ce que ça veut dire? Puis ce serait-tu quelque chose d'avantageux pour les États-Unis? C'est-tu vraiment quelque chose qui pourrait nous mener à un deal?
Ben, c'est pas une idée complètement déraisonnable, hein, parce que la Russie est déjà une puissance nucléaire, donc elle est plus d'uranium, moins d'uranium, ça ne change pas grand-chose au niveau de la sécurité mondiale. Les Russes ont une relation où il y a beaucoup de confiance avec les Iraniens. Bon, ils leur ont donné des informations sur le ciblage des cibles américaines, par exemple. Donc, les Iraniens pourraient leur faire confiance. Et l'enjeu de l'uranium iranien, c'est qu'ils ont à peu près 400 grammes d'uranium qui est pas tout à fait prêt à faire une bombe, mais qui pourrait faire une bombe assez rapidement. Donc, évidemment, du point de vue américain, du point de vue de la sécurité des États-Unis et d'Israël, on ne veut pas que les Iraniens conservent ça. Si les Iraniens disaient « on va le donner aux Russes, ils vont s'en charger », ça satisferait certainement les Américains. Et là, ça pourrait être une solution pas parfaite, mais tout au moins ménageable pour satisfaire cette ambition-là.
Il y a un autre dossier, Georges, dont tu voulais nous parler, puis je suis allé lire un petit peu là-dessus ce matin, parce que, bien honnêtement, en fin de semaine, les élections en Hongrie, là, c'était pas sur le top de mes priorités. Là. Puis finalement, en lisant un peu, je me suis rendu compte que c'était important, puis que, notamment, c'était quelque chose que Donald Trump, lui, devait surveiller de très près en fin de semaine, puis ça n'a pas viré de son bord, les élections en Hongrie.
Non, ça n'a même pas du tout viré de son bord, parce que c'est l'opposant au premier ministre d'antan, M. Viktor Orban, qui a été élu avec une super majorité. Bon, pourquoi je voulais t'en parler, Max? C'est vrai que la Hongrie, c'est un pays d'Europe de l'Est, c'est loin de chez nous, mais Viktor Orban incarnait à peu près le premier leader populiste. Tu sais, on a beaucoup parlé du populisme dans le siège du Brexit, de Donald Trump, du montée du Rassemblement national en France. Et ce populisme-là, il fait peur à beaucoup d'observateurs, parce qu'il y a comme cette crainte qu'une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils ne peuvent plus être délogés du pouvoir. On arrive au pouvoir par les urnes, puis après, on met en place plein de réformes qui font en sorte qu'on reste là indéfiniment. Viktor Orban avait quand même gagné 4 élections. Ce qu'on a vu hier, c'est qu'au contraire, si on a un mouvement populaire suffisant, même si les règles du jeu électoral sont pas fair, même si le parti au pouvoir contrôle les médias, contrôle en partie les tribunaux, contrôle les universités, décrète qui peut s'inscrire sur les listes électorales, ben une population dans le monde occidental est encore capable de renverser un tel gouvernement. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça nous donne deux choses. D'abord, une bouffée d'espoir pour ceux qui craignent des dérives populistes, mais aussi une dose de lucidité et de réalisme. Parce qu'on entend beaucoup de gens parler, notamment du côté des États-Unis, comme quoi on s'approcherait du fascisme, de la dictature, tout ça, alors que les institutions américaines, elles résistent encore à Donald Trump. Donc peut-être que la défaite de Viktor Orban nous permet de mettre un peu d'eau dans notre vin, de tempérer nos craintes et de comprendre que le jeu démocratique, il fonctionne encore, mais il demande une chose, c'est que la population se mobilise.
Et étais-tu surpris de voir le perdant Orban reconnaître sa défaite et la victoire de son adversaire assez rapidement?
Ça, c'est intéressant parce que ça montre un décalage souvent entre les récits journalistiques, comment on présentait Viktor Orban et l'homme lui-même. Parce que Orban a fait une panoplie de réformes, notamment sur l'enseignement de la théorie du genre, des trucs très culturels, de guerre culturelle, qui ont beaucoup déplu aux élites européennes, aux élites libérales, je sais pas, l'éditorialiste en chef de la presse, par exemple. Okay? Mais par-delà le récit médiatique, où on pensait quasiment que c'était un dictateur, mais le fait qu'il reconnaisse sa défaite si rapidement, sans contestation, sans mobilisation sociale de ses militants, ça nous indique que non, c'est peut-être pas un dictateur en puissance. C'est un leader qui avait des ambitions différentes, des valeurs différentes, mais au final, qui reconnaît le jeu démocratique. Et c'est peut-être ce que Donald Trump va faire après les élections de mi-mandat ou après la prochaine présidentielle, où oui, les républicains reconnaîtront leur défaite si les règles du jeu ont été respectées.
Georges, merci. Avant de te laisser partir, je sais qu'on partage une passion commune pour le karaoké.
Arrête!
Fait que j'ai pas le choix.
C'est vrai, ça?
Ben, c'est ce qu'il m'a dit.
Moi, j'en ai deux. J'ai Country Roads de John Denver et Tune d'automne des Cowboys fringants.
Ben, j'ai pensé à toi vendredi parce que j'ai commencé ma soirée karaoké avec Tune d'automne des Cowboys fringants. Puis hier, les députés de la CAQ se sont livrés à une petite activité de karaoké. On va entendre ensemble un extrait de ce que ça a donné.
Un jour nouveau se lève. Un autre pareil, mais tu sais.
C'était pour le moins spectaculaire.
Ma sœur de 18 ans dirait que c'est cringe.
Oui.
Le mot cringe était bien approprié. Je me suis retourné quand j'ai entendu cette toune-là commencer au congrès de la CAQ en hommage à François Legault. Puis je me suis demandé, hey, les députés de la CAQ, ils laissent-tu tant que ça, François Legault?
Mais moi, c'est une grave menace pour la CAQ, parce que si on a des députés, des adultes, hein, qui sont prêts à faire une affaire comme ça pour leur chef, ça veut dire qu'ils dépendent beaucoup de ce chef-là. Une fois que lui part, je pense pas qu'on chanterait ça pour Christine Fréchette. Au moins, pas tout de suite.
je serais bien surpris, en effet. Hey, Georges, merci, analyste politique international. Toujours un plaisir. On se reparle bientôt, puis on se croise dans un karaoké près de chez vous.
À bientôt, Max.
Salut. Bon, ben, ouais. Promis, je leur ferai pas. Je promets-tu que je leur ferai pas jouer?
Non, fais-le jouer. Fais-le ouais. jouer. Écoute bien.
Reste quand même une heure à ce show-là. Hein. On n'est pas, pas à l'abri de bord. Je le refais peut-être jouer d'ici midi. On va continuer de suivre aussi ce qui va se passer à l'international parce que officiellement, là, le fameux blocus de Donald Trump, c'était à 10 heures ce matin que ça entrait en vigueur. Fait que ça pourrait bouger dans les prochaines heures. Au retour de la pause, Audrey Pinchot est là pour l'Open Mic à Boulevard 102, 10h57 minutes.